Donc bonjour, je suis actuellement en direct sur Skype avec Olivier Clémence du blog réussirmonecommerce.fr. Salut Olivier.
Salut.
Donc là, on va faire l'interview des deux Olivier en fait. C'est le double O. Donc tu es un membre de la formation Blogueur Pro. Et j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui parce que tout simplement, tu m'as dit récemment « Ah Olivier, au fait, c'est super, maintenant avec mon blog, ça amène plein de visites sur mon site e-commerce. » Et aujourd'hui, je fais 2000 euros par mois de vente sur mon site e-commerce, en grande partie grâce à mon blog. Donc, ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement, la plupart des membres de Blogueur Pro n'ont pas ce business model-là. Ils utilisent leur blog pour vendre ensuite des produits d'information. Mais ça peut aussi être tout à fait utilisé un blog comme source de trafic pour un site e-commerce. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait très intéressant de t'interviewer. Déjà, tu as la pêche, ça va?
Oui, nickel, content.
Ok, donc alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
Oui, alors moi je suis. Ça fait 10 ans que je travaille sur le web et en fait j'étais avant tout développeur et je travaille. J'ai fait beaucoup de prestations de services pour des e-commerçants. Et même ça fait à peu près 4-5 ans que je faisais que de la prestation de services pour des e-commerçants. Donc j'ai vu passer pas mal de e-commerçants. Et dans mon domaine, en fait, j'utilise un système qui s'appelle PrestaShop et on peut ajouter des modules dessus. Donc, j'étais amené à développer des modules et ces modules-là, j'ai pu les vendre via ma boutique en ligne. Donc, c'est une boutique en ligne de vente de modules et j'ai pu vendre mes modules et du coup, moi-même, en fait, avoir un site e-commerce. Et en fait, à partir de là, voilà, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est pas plus intéressant de vendre que des modules plutôt que de faire de la prestation de service?
Voilà, parce que PrestaShop, c'est un site, enfin une plateforme, un peu comme WordPress pour les blogs, mais pour les sites e-commerce. Quelqu'un qui veut un site e-commerce, il installe ça sur son site et ça lui permet de gagner énormément de temps parce qu'il n'a pas besoin de tout développer de zéro. Par contre, exactement comme WordPress, eh ben, toutes les fonctions dont on a besoin ne sont pas forcément dedans. Et c'est là où tu interviens, hein, si j'ai bien
C'est
compris.
ça.
On peut te demander, si on a besoin d'une fonction spécifique sur notre site e-commerce PrestaShop, on t'appelle et tu développes quelque chose de spécifique. C'est ça la prestation de service, je suppose.
Voilà, c'est ça, complètement.
Ok. Et à côté de ça, tu vends des modules qui sont tout prêts à l'emploi, un peu comme des plugins WordPress.
Voilà, l'idée après, c'est exactement comme les plugins WordPress, c'est de trouver une problématique un peu récurrente au niveau des e-commerçants, d'en faire un module et après de le promouvoir pour qu'ils se vendent et du coup qu'ils l'installent. Et là, il n'y a pas de prestation de service dans la mesure où tout est déjà fait en fait.
Voilà, donc ça, c'est une entreprise que tu fais depuis combien de temps?
Alors, ça va faire depuis. En fait, ça fait un certain temps, ça fait quand même assez longtemps que je développe des modules. Et j'en avais mis quelques-uns donc sur une boutique en ligne. Évidemment, comme je maîtrise très bien PrestaShop, mettre une boutique en ligne et mettre mes modules dessus, ça m'a pris une demi-heure à peine. Donc, ça fait assez longtemps que mes modules sont. On peut les acheter. Maintenant, depuis combien de temps je me concentre sur les modules? On va dire depuis septembre-octobre, on va dire.
Donc ça fait, on va dire, depuis un peu plus de 6 mois.
C'est ça.
Ah.
Ok, d'accord. Quand est-ce que tu t'es inscrit à la formation Blogueur Pro?
Ben, ça devait être vers septembre-octobre, peut-être
Ok,
plus
six mois.
octobre.
Ok, ouais, c'est ça. D'accord, super. Et donc c'est quand tu t'es inscrit que tu t'es dit que tu allais passer d'un business model où tu faisais surtout de la prestation, donc tu échangeais ton temps contre de l'argent, à un business model où tu allais plus te focaliser sur la vente de produits, donc tes modules, pour avoir un meilleur effet de levier sur le temps que tu passes dedans, c'est ça?
Bah, c'est un terme que tu vas sûrement connaître, c'est un petit peu un business model scalable, c'est-à-dire que tu peux étendre autant que tu veux. C'est pas le temps que tu investis qui détermine l'argent que tu vas gagner, c'est plutôt la qualité de ton travail qui va déterminer l'argent que tu vas gagner en fait. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, mes modules commençaient gentiment à se vendre. Sans que je fasse forcément grand-chose, je gagnais pas énormément dessus, mais voilà, il y avait de l'argent qui se faisait alors que j'avais juste mis mes modules sur ma boutique. Et donc je me suis dit, voilà, cet argent, quelque part, entre guillemets, il vient tout seul. Si je travaille dessus, je peux étendre ça et faire un volume plus important avec certainement moins de travail que mes prestations de service. Parce que les prestations de service, il y a un moment où, comme tout le monde, moi j'ai des journées de 24 heures. Soit j'augmente indéfiniment mon taux horaire, soit je trouve le moyen de faire plus de prestations ou de la sous-traitance. J'ai essayé la sous-traitance aussi, Il y a un problème aussi au niveau de la sous-traitance, c'est que moi j'ai une exigence en termes de qualité de travail que j'ai eu énormément de mal à retrouver au niveau de la sous-traitance. Et de toute façon, la sous-traitance fait que, étant l'intermédiaire, il reste du temps que je dois investir. Donc, c'est pas, comme je disais, un business model totalement que je peux extensible en fait, dans la mesure où même si je passais moins de temps sur chaque prestation de service, j'y passais quand même du temps, notamment le travail sur les devis, etc., etc., qui souvent d'ailleurs n'est pas du temps rémunéré dans la mesure où le devis, on ne sait pas s'il va être accepté. Tout ça, c'était voilà, j'étais à ce niveau-là, j'étais assez coincé. Et étendre et augmenter mon taux horaire, maintenant, il y a un moment où j'étais arrivé à un taux horaire, et en 10 ans d'expérience, j'étais arrivé à un taux horaire quand même correct, hein, je veux dire, on va dire dans la fourchette haute. Il y a un moment où je ne peux pas non plus me permettre d'avoir un taux horaire exorbitant, notamment parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans mon domaine en fait.
Tu peux partager quel était ton taux horaire?
J'étais à 55 euros.
D'accord.
55 euros de l'heure, sachant que j'avais dans l'idée de passer à 60, et là j'allais commencer vraiment à être dans la fourchette la plus haute, ce qui se justifiait, on va dire, par la qualité du travail que je fournissais, parce que en termes de satisfaction client, et j'avais aucun problème là-dessus, tous mes clients revenaient très régulièrement, et j'ai des clients qui sont restés très longtemps avec moi sans aucun problème. Maintenant, voilà, le client, il peut quand même aller voir, il y a quand même des développeurs qui vont travailler très bien et qui vont travailler pour moins cher que ça, peut-être parce qu'ils ont moins de clients, peut-être parce que ça leur suffit le salaire qu'ils se font avec ça. Voilà, il y a un moment, c'était pas viable de continuer à augmenter le taux horaire, quoi.
Ouais, parce que la situation que tu décris est vraiment commune à beaucoup de prestataires de services. Moi-même, dans ma première entreprise de services informatiques, j'ai connu ça. Comme tu le dis, y a des moyens, hein, quelque part, d'augmenter les revenus d'une entreprise avec de la prestation. Oui, ça passe par, comme tu l'as dit, l'augmentation du tarif, prendre des employés éventuellement et puis scaler, mais ça demande beaucoup de ressources financières et puis aussi en temps de management, etc. Ou alors de sous-traiter, comme tu le dis. Mais c'est beaucoup moins facile que dans le cas où on a des produits, surtout des produits numériques, comme c'est ton cas.
Le fait d'employer, j'y ai pensé aussi parce qu'il y a une époque, j'ai plus la date en tête, il y a quelques années, j'ai rédigé un article sur mon blog à ce sujet-là d'ailleurs. En fait, j'avais un nombre de demandes énorme, je ne pouvais absolument plus gérer parce que j'avais réussi à positionner mon site de l'époque qui faisait la promotion de mes prestations de services. Donc à l'époque, ce n'était pas que de la boutique en ligne, hein, c'était un peu plus générique, je faisais un petit peu tout ce qui touchait à la création de sites internet, on va dire. J'avais réussi à me positionner en troisième position sur un mot-clé comme agence web en national. Et évidemment, je me retrouvais avec un nombre de demandes absolument astronomiques. Et là, j'avais commencé comment dire, à recruter, mais à rencontrer des personnes en fait, et à faire des entretiens, etc. pour voir. Voilà, j'avais cherché un designer, un développeur. Et donc ça allait se faire, j'allais vraiment choisir, dans la semaine j'allais choisir, et du jour au lendemain Google m'a complètement, on va dire, viré mon site des résultats
Ah oui.
pour une raison X ou Y, sachant que j'avais respecté les règles, on va pas rentrer dans le détail du référencement, mais j'avais respecté les règles prescrites par Google, mais je pense qu'à un moment Google a dû comprendre que j'étais pas une agence web, j'étais un freelance, et donc c'était pas justifié que je sois aussi bien placé sur ce mot-clé-là. Et du coup, il m'a complètement éjecté et je me suis retrouvé avec, on va dire, 80% de trafic en moins.
Ah oui, ça fait mal ça.
Et c'est arrivé, alors merci Google pour le coup, mais c'est arrivé, on va dire, globalement, une semaine, 10 jours avant que je choisisse une des personnes que j'avais rencontrées. Donc, le fait d'employer, on a toujours cette problématique-là aussi, c'est qu'à un moment, on est dépendant quand même des demandes qu'on a, et l'employé, par contre, on ne pourra pas lui dire, rentre chez toi, j'ai plus de travail.
Tu peux, mais faudra que tu passes à la caisse et que tu fasses
Oui,
une
enfin, ça ne peut pas le
rupture.
faire toutes les 5 minutes parce que si
Ah, bah
ça revient,
exactement.
et voilà, après, on est.
Oui, il y a beaucoup moins de souplesse, effectivement, que si tu vends des produits, hein, effectivement, ouais, c'est clair.
Ben, c'est un peu le problème de l'embauche du premier, je veux dire, du premier. Après, je pense que tu as déjà 5-6 salariés, et le sixième, ça va être moins problématique, mais c'est particulièrement difficile, je trouve, en France, notamment de la première embauche, parce que c'est vraiment un moment critique où vraiment, bah voilà, on pose tout sur la table et puis soit ça marche, soit ça marche pas, quoi. Et dans mon cas, heureusement, on va dire, ça s'est planté avant que je fasse le pas. Et c'est là que moi, j'ai décidé de me recentrer vraiment que sur le e-commerce, ce qui me permettait d'être plus spécialisé et donc là d'augmenter un petit peu mon taux horaire. Et puis de toute façon, voilà, je repartais pas de zéro, mais j'avais beaucoup de travail dans la mesure où j'avais plus de trafic, etc. En fait, je me suis appuyé sur les clients que j'avais déjà. Et c'est vrai que la prestation de service à ce niveau-là, c'est vraiment le problème, c'est qu'on est vraiment dépendant de la fluctuation des demandes, en fait.
Oui, tout à fait. Ok, donc tu avais fait toute cette analyse avant de t'inscrire à Blogueur Pro.
Ouais.
Et du coup, c'est ça qui t'a motivé à t'inscrire à la formation.
Alors, en fait, ça faisait déjà un moment que je suivais pas mal de vidéos, dont les tiennes, et j'étais déjà tombé plusieurs fois sur des moments. Alors, il y avait tes vidéos, je crois ton blog aussi que je suivais, et j'étais tombé plusieurs fois sur le fait que tu expliquais que tu avais créé une entreprise, et franchement, c'était, voilà, comme tu expliquais, que tu travaillais au service de ton entreprise, et c'est pas ton entreprise qui travaille à ton service. La lecture du livre La semaine de 4 heures, comme beaucoup de gens aussi, m'a pas mal entre guillemets secoué. D'ailleurs, je l'ai lu 3 fois ce livre. La première fois, je l'ai détesté. C'était complètement en dehors de mes principes. La deuxième fois, il m'a interloqué. Et la troisième fois, j'ai fini de le lire. Et tu as lancé l'ouverture de ta formation et je me suis inscrit. Parce que, voilà, il faut peut-être un peu de temps pour que je sois convaincu, mais j'ai fini par être convaincu.
Et alors du coup, ça m'intéresse, pourquoi tu as relu une deuxième fois le livre alors que tu l'avais détesté?
Ben, en fait, parce que faut être un bon sceptique dans la vie.
Ah, ça c'est vrai ça.
J'apprends des choses. Et je sais pas si c'est cette vidéo ou quoi que ce soit, mais j'ai lu le livre et à la fin du livre, je l'ai lu en entier parce que le livre, j'ai commencé à lire et je me suis dit, Tim Ferriss, ok, c'est quoi ce bouquin? Déjà, la semaine de 4 heures, c'est super, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'où tu travailles 4 heures par semaine, ça n'existe pas. Donc je trouvais ça un peu très provocant. J'ai lu le livre, je me suis dit, ouais, bon, c'est de la provoque, machin, ce qui fait la façon de faire travailler les autres, machin, etc. Il y a des fois, je trouvais que c'était un peu excessif dans sa façon de montrer les choses. Et d'ailleurs, Tim Ferriss, en fait, a poussé le truc vraiment très loin, donc c'est pour ça que je trouvais ça excessif, mais lui, il a vraiment optimisé au maximum. Et voilà, c'était pas du tout dans mes principes. Faut savoir que moi, toute ma famille, personne n'a créé d'entreprise dans ma famille. En fait, je suis le premier.
D'accord.
Et donc, j'avais pas forcément les préceptes de l'entrepreneur, on va dire.
Oui, complètement.
Et du coup, voilà, ça me correspondait pas du tout ce bouquin, mais je l'ai quand même lu jusqu'au bout. Et puis après, à force de voir des gens dire, voilà, le bouquin de Tim Ferriss, ça a changé ma vie, etc., etc., je me suis dit, bon, peut-être que je suis peu trop borné. Il y a des gens qui ont réussi et qui expliquent que le bouquin les a fait comprendre des choses. Peut-être le relire et puis être un peu plus objectif. Et quand je l'ai relu, voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont interloqué. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que je pourrais essayer de mettre en place quelques trucs, moi essayer. Le fait d'être un bon sceptique, voilà, ça j'y crois pas, mais je peux essayer. Et puis j'ai essayé 2-3 bricoles et ouais, ça a fonctionné à peu près. Et après, je l'ai relu en me disant, voilà, ça c'est bon, ça va être mon tableau de bord et je vais prendre tout ce que je peux vraiment comprendre et puis voir si je peux en faire quelque chose et essayer de l'intégrer dans mon entreprise en fait. Et à la fin de la lecture du bouquin, je me suis dit, voilà, la prestation de service, ça va être trop compliqué pour obtenir ce que je veux. Il faut, si je veux. Si je veux faire ce qui est expliqué en gros dans le livre de Tim Ferriss, il va falloir que je trouve une solution pour la prestation de service. Et la solution, en fait, c'était d'arrêter la prestation de service et de partir sur la création de modules, en fait.
Ouais, bah c'est vrai, c'est très intéressant cette démarche que tu as eue vis-à-vis d'un livre que à la base tu as détesté, bah finalement de te remettre en cause hein, et puis d'avoir cette approche scientifique de te dire, ok, bon, j'ai pas aimé la première fois, mais je vais mettre en place quelques tests de trucs qui préconisent pour voir si ça fonctionne, et tu t'es rendu compte que ça fonctionnait. Et ça, c'est ouais, tu as bien compris là ce qui fait la quintessence du bon sceptique. Hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas et qui regardent cette vidéo, c'est la différence entre le bon et le mauvais sceptique. Voilà, c'est normal d'être sceptique par rapport à quelque chose, surtout quand ça paraît un peu miraculeux ou ça sort complètement de notre vision des choses. Mais il y a le mauvais sceptique qui va se dire ah mais non c'est de l'arnaque, j'y crois pas ou de toute façon le mec il délire complètement et puis il va rien faire. Il y a le bon sceptique qui va avoir finalement ce même scepticisme et qui va se dire il y a qu'une seule manière de le savoir, si ça fonctionne ou pas, c'est de le tester pour moi-même. Et l'idéal, c'est de faire comme exactement ce que tu as fait, ça c'est intéressant, de faire des petites expériences sur des choses comme ça qui peuvent nous apporter quelque chose qu'on a trouvé dans la méthode, dans le livre, et de voir si ça fonctionne pour nous,
ouais,
tout simplement.
Et je pense que c'est vraiment important de faire des petites choses, dans la mesure où, quand on est sceptique sur quelque chose, si on se lance dans quelque chose de gros, soit on ne va pas aller au bout, soit on ne va pas faire exactement tout ce qui est préconisé par la personne qui nous a expliqué le truc, et du coup, on n'aura pas les résultats, ou on n'aura pas assez de résultats par rapport au temps investi, et du coup, bah, notre scepticisme, il va prendre le dessus, et on va se dire, bah voilà, j'avais raison, ça ne marche pas. Alors, si on part sur une petite chose, on se dit, bon, c'est pas long, je la fais à fond, on peut après juger si ça fonctionne ou pas, en fait. Et moi, ça m'est arrivé de faire des petits tests, et d'avoir zéro résultat, et de me dire, bon, ok, je vais pousser le truc jusqu'au bout, pour être sûr que c'est moi qui ai raison, je vais analyser ce que j'ai fait, essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de résultat. En fait, je me suis rendu compte que voilà, ce que j'avais pu faire, c'était, bah, y avait un truc, en effet, ça ne marchait pas dans mon cas. Ce qui était expliqué ne marchait pas dans mon cas. C'est pas que ce qui est expliqué est nul, c'est que c'est pas adapté à mon cas. Et ça veut dire qu'il y a d'autres choses que je peux aller récupérer dans le bouquin, parce que voilà, tout n'est pas forcément applicable à ce que je fais, quoi.
Ouais, ça on pourra en parler longtemps parce qu'effectivement, il y a toute une méthodologie dans le test. Comme tu le dis, c'est pas parce qu'on fait juste une expérience et qu'elle est négative qu'il faut jeter tout le livre ou toute la démarche de l'auteur. Après, on n'a pas tous le temps de tout tester, ça c'est clair.
C'est ça le problème, c'est dur. C'est dur de
tout tester. Mais voilà, après, je pense que de manière pragmatique, c'est surtout quand même on est interpellé un peu par la démarche et que si on sait que cette méthode-là va fonctionner au moins partiellement pour nous, ça va peut-être complètement changer notre vie. Ce qui est le cas de la semaine de 4 heures.
Bah, ma démarche à ce niveau-là, moi, c'est de, comme je l'ai fait pour la semaine de 4 heures, c'est de voir un truc, je suis interloqué par le truc, mais voilà, j'ai pas, comme tout le monde, j'ai pas le temps de le faire tout de suite. Ok, je le laisse. Et si ça revient naturellement, tu vois, je vais regarder tes vidéos, il y a un truc qui va me plaire, je vais regarder les vidéos d'une autre personne, elle va dire la même chose. Je trouve les deux personnes pertinentes dans ce qu'elles avancent. Et à un moment, je vais me dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose à faire parce que ça fait deux, trois fois que je le vois, deux, trois fois que je me dis, c'est pas bête. Ok, faut que j'essaye.
Bon, ben voilà. Ouais, c'est effectivement une bonne manière de choisir les actions à tester. Ok, donc, ouais, donc tu lis la semaine de 4 heures, troisième fois, donc tu t'inscris à la formation dans ce but, donc vraiment qu'elle t'accompagne dans cette transition de business model. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement et tes résultats?
Par rapport à la formation, tu veux dire?
Bah oui, je suppose que quand tu t'es inscrit, tu t'es décidé à te lancer dans cette démarche de changement de business model. Donc, comment ça s'est passé?
Alors, en fait. Moi, j'avais déjà, voilà, quand j'ai repris le bouquin, je l'ai relu, je suis arrivé à moitié, je me suis dit, ok, bon, c'est ça la décision, c'est j'arrête la prestation de service, je fais du module. Donc, j'avais commencé, en fait. J'avais vraiment commencé. Donc, j'avais refait mes fiches produits, etc., etc. Je commençais un petit peu à parler de ma boutique. Et puis, très vite derrière, j'ai fini le bouquin, et puis très vite derrière, t'as ouvert ta formation. Donc, je me suis dit, bon, bah là je saute sur l'occasion, je la prends. Et à partir de là, en fait, pour le coup, au départ, comme moi, j'avais déjà le blog, la thématique, etc., tout le premier module, en fait, je l'ai regardé avec intérêt. D'ailleurs, je me suis presque remis en question aussi, est-ce que je continue dans le domaine? Parce que c'est vrai que tu expliques qu'il faut essayer quand même d'aller voir qu'il n'y ait pas forcément trop de concurrence dans le domaine, etc., où on veut se mettre. Et moi, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de concurrence dans mon domaine. Donc c'est vrai, je me suis un peu remis en question. Mais voilà, après je me suis dit, bon, c'est le premier module, on avance. C'est clair que moi j'ai déjà le blog. Le premier module est fait pour ceux qui veulent lancer leur blog, leur nouveau blog. Donc ça, mais c'était pas adapté à moi, donc j'ai continué. Et c'est à partir vraiment du module, on va dire du module 2, etc., où là t'expliques comment on fait vivre un blog, hein, tout simplement. Étrangement, moi, après 10 ans d'expérience dans le web, je connais beaucoup de choses en termes de référencement, en termes de technique, en termes de type d'article qu'on peut rédiger, etc. Le problème, c'est que j'avais toutes les infos. Oui. J'étais incapable de pointer du doigt ça marche bien, ça marche pas, ça marche pour moi, etc. etc. Et en fait, bah, ta formation, c'est ce qu'elle m'a apporté en gros. Je vais pas dire que j'apprends rien, c'est pas vrai, parce que sur WordPress, je suis pas du tout un expert, et les modules que tu donnes, il y a des fois, ils sont juste miraculeux. Moi, j'en ai rajouté quelques autres que j'ai trouvés, j'en ai adapté quelques autres parce que en niveau code, je peux faire beaucoup de choses, donc aller trifouiller le code, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est vrai que les modules que tu donnes dans ta formation, ils sont d'une efficacité bluffante. Et ça fait gagner un temps pas possible, parce que quand on va taper un mot-clé, pour trouver un module, on va en avoir 250. S'il faut tous les tester, c'est super long, puis on a des chances de planter le blog. Donc, on ne va pas tous les tester. Toi, clairement, je ne sais pas si tu as tout testé, mais du moins, ceux que tu proposes, ils font le boulot.
Et... on a testé pas mal. Après, tous, ce n'est pas possible.
Non, non, voilà. Puis, de toute façon, il y en a qui changent, qui vont s'améliorer, etc. Mais voilà, ouais. C'est clair que dans un module, tu dis, on va faire ça, on va utiliser ce plugin-là. Ça fonctionne à la fin. Il y a aucun problème. Et bon, après, moi, en plus, je vais assez vite dans la mesure où, si j'ai un problème technique, je pourrai le résoudre par moi-même. Donc, c'est vrai que du coup, ta formation, à chaque fois que la vidéo arrive, moi, je vais très vite à la mettre en place. Et c'est génial. Mais là où j'ai vraiment gagné le plus, je trouve, c'est sur ta façon où tu expliques comment rédiger les articles, comment faire en sorte que d'apporter de la valeur au client, etc., au lecteur, etc. Les types d'articles qu'on peut faire, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Et à chaque fois, tu donnes des exemples de ce que tu as fait. Moi, à chaque fois, je vais voir tes exemples. Là, hier, j'ai terminé ce que tu appelles un carnaval d'articles. Je l'ai mis en place. J'avais essayé par moi-même la première fois, je m'étais mal pris, ça n'avait pas fonctionné. Là, j'ai suivi ta méthode pas à pas. Étrangement, dans mon domaine, c'est quand même le marketing, etc. Du coup, le e-commerce et faire connaître les sites. Il y avait plein de gens que j'ai contactés qui ne connaissaient pas ce principe-là, donc c'est assez amusant. Et ça a fonctionné, j'ai eu 22 personnes qui sont intervenues, j'ai Frédéric Canvet, que tu connais, puisque je crois que tu l'as interviewé, qui a participé. Des blogueurs qui sont quand même connus, il a un des plus gros blogs en web marketing. J'ai des gros blogueurs en termes de référencement qui sont intervenus, et j'ai eu 22 personnes qui sont intervenues dessus, donc c'est vraiment super, c'est vraiment un résultat que je trouve vraiment génial. Et j'avais déjà essayé par moi-même, parce que je connaissais le principe, et c'était un flop total, j'avais eu des refus, j'avais envoyé, je sais pas, 100 demandes, et j'avais eu 3 personnes qui avaient accepté, je m'étais mal pris. Là, j'ai envoyé 60 demandes, j'ai eu 22 personnes.
Ah oui, c'est un peu meilleur le taux, ouais.
Ah ouais, c'est meilleur, et en plus, les refus que j'ai eus, c'est pas parce que je l'ai mal organisé, c'est évidemment une question de temps par rapport au blogueur qui n'était pas disponible, c'est normal.
Ok. Wow. Donc tout ça, ça t'a aidé à faire en sorte que ton blog se développe, qu'il y ait plus de trafic. Et du coup, comment, parce qu'aujourd'hui, donc t'es passé, combien tu faisais de ventes de tes modules avant de t'inscrire à la formation?
Alors, avant de m'inscrire à la formation, je faisais, on va dire, 4. Alors. Oui, comme je t'expliquais, au départ, en fait, j'ai deux choses. J'ai ma boutique en ligne et mes modules sont aussi sur une marketplace. Donc la marketplace,
une place de marché indépendante.
Une place de marché officielle de PrestaShop.
Qui vend tout seul, je suppose. Tu n'as pas grand-chose à faire sur cette plateforme, c'est eux qui se chargent du...
Il y a le SAV sur les modules à faire, simplement. Okay. Donc en fait, voilà, mes modules sur cette plateforme faisaient déjà 1500, je faisais à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois. Avec mes modules. Après, sur ma boutique, je faisais dans les 4 à 500 euros par mois.
D'accord.
Donc, moi, avec le salaire que je me faisais avant en termes de prestations de services, j'avais pour objectif de monter rapidement parce que voilà, les 2000 euros par mois, si tu enlèves évidemment toutes les taxes, ça faisait un tout petit salaire. C'était pas suffisant. Donc, et surtout comparé à ce que je faisais en prestation de service avant, ça faisait une très grosse perte de salaire. Donc, du coup, il fallait que je monte rapidement. Et là, maintenant, je suis à 2000 euros, plus de 2000 euros par mois. Enfin, là, ça fait 4 mois que je dépasse les 2000 euros par mois sur ma boutique.
Et donc, sur ta boutique, il y a ton blog.
Ça n'a pas trop évolué, ça reste dans les 2000 euros.
Ok, donc, ouais, tu as multiplié par, on va dire, 4 les résultats de ta boutique avec ton blog. Donc, tu t'attribues ça à quoi? À l'augmentation de trafic suite à l'application des méthodes de la formation? À aussi le fait que tu es meilleur en marketing? Une combinaison des deux?
Une combinaison de trois choses. Le fait que la formation, en fait, m'a fait comprendre comment, comme je te disais, quelle méthode employer pour bloguer correctement. Le fait de bloguer correctement, donc du coup, les articles aussi sont de meilleure qualité parce que voilà, ta formation m'a fait aussi comprendre comment faire de bons articles. Le fait de faire de bons articles fait que on me voit un peu plus sur les réseaux sociaux et j'ai pu prendre contact avec d'autres personnes comme Frédéric Canvet ou d'autres blogueurs, etc. Et du coup, j'ai eu des opportunités en termes d'affiliation. C'est-à-dire que Il y a des blogueurs qui peuvent promouvoir mes modules et qui récupèrent une commission dessus.
Oui,
Et du coup, évidemment, voilà, j'ai bénéficié de liens vers mes modules et de ventes qui se faisaient en dehors de mon blog, en fait. Mais c'est quand même dû au fait que mon blog, que j'ai pu me faire connaître un peu par mon blog et que j'ai été contacté et que j'ai pu contacter ces gens-là et avoir un peu plus de poids auprès d'eux. Et après, évidemment, il y a le fait que mon blog, le trafic de mon blog augmente. Et du coup, comme à chaque fois mon blog, très régulièrement, je fais des liens vers ma boutique en ligne, j'augmente les ventes de ma boutique naturellement, en fait.
Oui, et puis ton blog parle de e-commerce, donc forcément il y a une corrélation forte. Les gens qui arrivent sur ton blog pour lire un article sur le e-commerce sont plus susceptibles d'être intéressés par PrestaShop que la personne lambda qui vient juste regarder des vidéos de chat.
De toute façon, sur mon blog, c'est des articles sur le e-commerce, on va dire, global, générique, c'est-à-dire qui vont expliquer peut-être comment relancer des clients, etc. Enfin, à quoi ça sert de relancer des clients, etc. Et après, j'ai des articles très spécifiques sur PrestaShop qui sont un peu plus techniques. Comment gérer le logo de PrestaShop, comment mettre un sitemap, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des points techniques que les utilisateurs PrestaShop ont besoin de connaître. Et évidemment, voilà, c'est des articles très ciblés qui n'apportent pas forcément un gros trafic, mais qui apportent une transformation intéressante, en fait, derrière.
Oui, il vaut mieux 10 personnes qui ont des sites PrestaShop que 1000 personnes qui veulent juste voir une vidéo de chat. Je pense qu'on est d'accord.
Ouais, moins de ventes des chats.
Ok, bon, donc waouh, super. Et en plus, si j'ai bien compris, tu n'as même pas fini la formation aujourd'hui.
En fait, j'ai envie de te dire que j'arrive au point où, quand j'ai pris ta formation, moi, je savais ce qu'il y avait à la fin, donc toute l'histoire de vente de produits, d'informations, etc. Et j'ai pris ta formation au départ, je me suis dit, je vais prendre ça parce que je peux peut-être en faire quelque chose dans mon domaine. Et en fait, je suis en train d'y arriver. Bon, après, voilà, j'ai été très agréablement surpris sur tout le reste, à part évidemment le module 1, comme je disais, qui ne me concernait pas, mais module 2, 3, 4 et 5 m'ont vraiment fait avancer au niveau de mon blog, alors que je ne pensais pas avancer autant, parce que voilà, j'ai 10 ans derrière moi d'expérience, je suis super fort hein, sur Internet, et finalement, je ne suis pas si fort que ça, et c'est bien de s'intéresser aux formations que de gens qui ont réussi avec, quoi.
Waouh, bah écoute, wow, je suis vraiment content que ça t'ait autant apporté. Est-ce que tu as hésité un petit peu avant de t'inscrire?
En fait, tu avais déjà lancé ta formation une première fois et je la suivais.
Oui.
Et c'était à l'époque où je crois que j'avais fini la première fois le livre de Tim Ferriss.
Donc tu n'étais pas dans ce mode-là.
Et je m'étais dit, Olivier Roland, il me donne des infos. Enfin, il a l'air d'avoir réussi, il me donne des infos sympas, mais. Il parle souvent de Tim Ferriss et ce mec-là, il m'énerve. Donc, j'étais en train de me dire, sa formation, j'y crois pas, je vais rien apprendre, ou alors j'avais un peu de mal. Et donc, quand tu l'as sorti, j'ai fait non, c'est pas possible, je vais continuer à suivre, etc. Et puis voilà.
D'accord. Ok, ouais, donc c'est intéressant, ça, c'est ton changement de point de vue par rapport à Tim Ferriss, qui d'ailleurs vient du fait que tu as adopté une démarche de bon sceptique. Qui du coup t'as un peu, on va dire, débloqué pour t'inscrire à la formation. Ça, c'est intéressant. Ok.
En fait, je pense que c'est un problème que beaucoup de développeurs ont, parce que tu vois un petit peu le cliché du développeur mal dans sa peau, un peu obèse, qui est au fond de son canapé, son siège d'ordinateur et qui sort jamais de chez lui, qui prend jamais la lumière du soleil. On a un peu ça, puis on est un peu borné, on a l'impression d'un peu tout savoir. Moi j'ai beaucoup travaillé comme ça, donc après on a l'impression de tout savoir, mais on sait des choses, hein. On va prendre des bouquins, on va se former, on va travailler 15 heures par jour pour débugger un truc, etc. On va y arriver, et du coup on développe une expertise, ça c'est sûr. Mais après on a un peu tendance à se dire, non mais c'est bon, moi je sais, y a pas grand monde qui sait plus de choses que moi, du moins à ce niveau-là. Et à partir du moment où on se remet un peu plus en question, moi quand je me suis remis en question, c'est aussi là que je me suis plus intéressé à plein de choses en dehors du développement, de la programmation je veux dire, mais voilà, je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel et des choses comme ça. Quand on commence à se remettre en question, on avance à vitesse grand V par rapport à ce qu'on faisait avant, en fait. Et voilà, c'est des. Je suis des gens comme David Laroche, etc. Moi je trouve ces vidéos, elles sont vraiment sympas et ça fait prendre conscience de plein de choses. Et ouais, je pense qu'à un moment il faut être capable de se remettre en question suffisamment pour se dire on sait des choses mais on sait pas tout et si on veut aller plus vite il faut suivre un petit peu des gens quoi.
Waouh, ben ouais. Bon, c'est vrai que ça fait un peu cliché, mais je suis assez d'accord avec toi. Bon, moi, j'étais pas développeur, mais j'étais quand même un grand geek, puis j'avais une boîte dans l'informatique. Et je pense que quand même, de manière générale, on peut dire que nous, dans ce secteur-là, on est, comme tu l'as dit, voilà, on a une certaine logique, mais parfois un peu trop borné, un peu trop, ouais, comme tu l'as dit, un peu trop focalisé sur de la technique pure et dure. Et par contre, on a cette capacité d'apprendre, de se taper un bouquin entier sur un sujet un peu obscur, et que ça nous ouvre un petit peu ben, notre vision des choses, et nous inspire même à appliquer, et c'est ce qui s'est passé avec toi, donc ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que bon, ouais, on peut voir, ouais, y a dans les développeurs cette approche technique, et peut-être même un peu rétive au marketing parfois, je ne sais pas si c'était ton cas. Qui bloque un petit qui c'est dommage parce qu'il y a toutes les qualités à la base qui sont là pour réussir, mais parfois bah, les défauts des qualités font que tu te heurtes à une barrière et que c'est à part si tu te remets pas en cause, c'est difficile de la dépasser.
Bah, en fait, j'ai aussi suivi sur ton blog des livres pour changer de vie. En fait, j'ai pris le personal MBA et j'ai commencé à en lire pas mal. Et c'est vrai que ça change un peu la vision des choses en termes de marketing, dans la mesure où, ouais, en tant que développeur avant, le marketing pour moi c'était le mal. C'était le vendeur qui veut te vendre un truc que t'as pas besoin, le vendeur qui connaît rien mais qui dit qu'il sait mieux que toi. Voilà, c'était le vendeur de grande surface qui est là depuis une semaine et qui va te dire non, non, mais prenez-le, il est super bien, j'ai le même à la maison, etc. Voilà, ils existent ces vendeurs-là, il n'y a pas de problème, on
C'est
le sait
clair.
tous, on en croise tout le temps, et ils nous insupportent, ça c'est une évidence. Maintenant, ça c'est pas la définition du marketing, ni la définition d'un vendeur. Quand on lit des bouquins, je ne sais plus quel bouquin j'ai lu là récemment, mais il y a des bouquins qui font vraiment avancer les choses et qui on comprend que voilà, vendre, c'est si on fait ça dans le bon sens du terme, enfin, si on fait ça de façon intelligente, c'est avant tout rendre service au client et après lui montrer que en effet on a une expertise, notre expertise elle peut apporter des choses au client et du coup, bah, en effet, parfois on peut lui vendre pour plus cher que ce qu'il avait prévu, mais parce que ça lui rend plus service en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai appris entre guillemets récemment, mais c'est des choses que j'avais déjà en fait en tête, mais que voilà, en s'ouvrant un petit peu plus, en acceptant un peu plus de lire des bouquins et de croire ce qui est écrit dans les bouquins, je l'ai plus assimilé et du coup je le mets en place et ça fonctionne. Ouais.
Wow, bah écoute, c'est super intéressant parce que je pense que tu décris un blocage qui existe chez beaucoup d'entre nous et c'était mon cas aussi pendant longtemps. Hein. Moi, si tu prends mon moi de 2006 qui lit la semaine de 4 heures ou qui juste regarde une de mes vidéos, je pense que ma première action c'est mais c'est qui ce mec pour qui il se prend il vend des conneries quoi. Enfin, il me dit n'importe quoi.
Pour tout te dire, en fait, j'ai commencé à te suivre parce qu'il y avait une vraie résonance en fait dans ta situation et la mienne en fait. Voilà, la situation que j'avais, c'était celle que tu décris au départ. Et en plus dans à peu près le même domaine, comme tu étais dans l'informatique, je suis dans Internet, on n'est quand même pas très loin. Voilà, c'était vraiment le problème de. On travaille des heures et des heures et des heures, on a créé notre boîte, super, on travaille des heures. Et puis au final, on a fait un truc super, mais on n'a pas l'impression d'avancer et d'être spécialement heureux dans ce qu'on fait, quoi. Et il faut se poser des questions, quoi. Et dans ce que tu montres clairement que toi, tu as réussi. À un moment, je me suis dit, bah, voilà, s'il a réussi, ça peut être intéressant de suivre sa formation pour que moi aussi j'y arrive, quoi.
Bon, aujourd'hui, donc, tu es content de t'être inscrit à Blogueur Pro.
Alors, pour tout te dire, oui, je suis assez content. Je suis assez content. Et autre chose que j'ai oublié et j'avais prévu de le dire quand même, c'est important parce que c'était devenu très gênant pour moi. À force de travailler des heures incroyables, parce que je travaillais peut-être 50 heures par semaine, si c'est pas plus, quand je faisais de la prestation de service, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos incroyables qui remettaient en question le fait du nombre d'heures que je travaillais. Et maintenant, avec mon blog, je me suis fixé 35 heures par semaine en fait. Et je me rajoute, on va dire, le soir, 1 heure de temps en temps pour suivre ta formation.
D'accord.
Comme je disais, je vais assez vite dans la mesure où techniquement j'ai aucun problème. Et du coup, bah, j'ai beaucoup moins, pratiquement plus de douleur en fait. Sauf que là, pour le coup, je me suis blessé au genou qui fait que mes douleurs reviennent, mais sinon mes douleurs ont disparu depuis que je fais plus 50 heures par semaine, quoi.
Waouh! Donc, tu es en train de dire que Blogueur Pro devrait être remboursé par la Sécu, c'est ça?
C'est ce que j'allais dire. Si je me souviens bien, il y a une membre de la formation qui son blog est remboursé, ou je sais plus, ses produits sont remboursés par la Sécu. Essaye de tenter ta chance, il y a peut-être une option.
C'est génial ça, ouais. Bah écoute, très bon dommage collatéral positif. super, ok. Bah, alors, et du coup, là, quels sont tes projets pour l'avenir?
Bah déjà, comme je disais, j'ai organisé le carnaval d'Arctique. Ça m'a obligé évidemment à contacter plein de personnes, donc des gens que je connaissais déjà et des gens que je ne connaissais pas. Ça m'a, du coup, j'ai deux partenariats en fait, pour le coup, qui se sont mis en place en même temps. Parce que voilà, je les ai contactés, ils étaient OK pour travailler sur le carnaval d'Arctique. Et après, on a continué à discuter. Et donc, j'ai un partenariat là, bah, qui se clôture, enfin, on met tout en place demain. J'en ai un autre. Donc là, on s'est laissé un peu de temps, je le recontacte, mais j'en ai un autre. C'est des petits trucs, mais ça fait avancer les choses, ça va me faire du contenu facilement sur mon blog. Et puis, voilà, ça va permettre de me porter de la valeur à mes clients tout en. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Hein. La personne avec qui je vais travailler, ça va faire de la promotion pour lui. Moi, ça peut me faire gagner un peu d'argent et ça me fait des contenus très pertinents pour mes lecteurs. Donc, ça, c'est assez génial. Et puis après, il y a aussi un événement au niveau de PrestaShop, le PrestaShop Day qui arrive très bientôt, où je vais y aller et donc discuter avec plein de gens là encore pour peut-être trouver des partenariats à mettre en place. J'ai des opportunités au niveau de mes modules. Donc là, j'ai deux modules qui sont en cours de développement, qu'il va falloir que je termine et que je mette en place sur ma boutique. Et après, je pense que voilà, je vais continuer à suivre la formation Blogueur Pro. Et je pense que je vais partir sur moi-même proposer une formation pour les e-commerçants en me basant sur les conseils que tu vas donner dans les modules qui arrivent en fait.
Waouh, bah écoute, super, un bon programme. Bah écoute, super Olivier, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont. Il y a plein de possibles de figures de gens qui peuvent être intéressés par ça. Les gens qui ont un site e-commerce, les gens qui sont dans un profil de prestataire et qui en ont marre d'échanger leur temps contre de l'argent. Et puis juste les gens qui veulent réussir avec leur blog. De toute façon, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que ça vous a intéressé et que vous êtes super motivé. Est-ce que tu as un conseil à donner avant de se quitter pour les gens justement qui veulent se lancer dans le blogging qui hésitent un petit peu?
Alors, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le blogging, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est. Ouais, on va dire, j'ai deux conseils. Pour ceux qui veulent se lancer dans le blogging, ça vaut le coup d'essayer dans la mesure où, si ça fonctionne pas, le fait de travailler sur un blog, de faire des vidéos, des articles et des podcasts, etc., ça implique qu'on s'investisse et du coup, on va apprendre plus de choses qu'on en sait déjà en fait. C'est pas juste dire ce qu'on connaît, c'est dire ce qu'on sait, mais l'approfondir pour que ça devienne super intéressant et apporter un maximum de valeur. Donc déjà, au pire, si on fait un blog et qu'il fonctionne pas, au final, nous, on aura appris des choses. Et bah, ça fait partie des objectifs, hein, du moins que je me suis fixé moi, c'est d'apprendre toujours de plus en plus de choses. Et après, pour ceux qui ont déjà un blog, mais voilà, peut-être qui vivotent un petit peu comme c'était mon cas, parce que mon blog existait déjà, mais il n'avait pas vraiment de trafic et je m'en occupais pas trop. Pour ceux qui ont déjà un blog, l'idée c'est de passer à l'action. Comme tu le dis très bien dans tes formations, je faisais pas de podcast, je faisais pas de vidéos, etc. Et à un moment, tu dis, faut les faire. Tu donnes les conseils de base pour faire un truc propre et qui va pas paraître complètement, on va dire clairement pourri. C'est pas la vidéo faite avec une webcam et puis le son complètement nul, etc. Tu donnes quelques conseils. Moi j'ai essayé. La première vidéo, c'est un peu dur. La deuxième, c'est plus facile. La troisième, ça devient rigolo. Et puis après, on a qu'une envie de s'en faire souvent. Et après, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. La vidéo, moi, ça m'a plu de la faire. Ça fait du contenu. Et voilà, elle va plaire à une personne, elle va plaire à 10 personnes, c'est pas grave. Elle va déplaire à 10 personnes, je veux dire, c'est pas grave. Moi, du moment que ça m'a amusé de le faire, voilà. Le boulot devient beaucoup plus sympa quand on fait ça, plutôt qu'avant, moi, du moins dans mon cas, avant où je faisais de la prestation de service tout le temps et que je travaillais pour d'autres en fait. On reste, la prestation de service, on reste un petit peu employé quand même derrière et on fait pas le travail pour soi.
Waouh, là, t'as très bien résumé effectivement. Bon, pour la vidéo, mais ça marche pour d'autres trucs comme les podcasts ou même les articles. Hein. Au début, c'est dur, puis. Souvent, après, on adore ça. Et comme tu le dis, tout ce qui a été créé, les articles, les podcasts, les vidéos, c'est du contenu. Ça peut t'amener des prospects, même des clients pendant 5, 10, 15, 20 ans. Alors, peut-être que dans le cas de PrestaShop, c'est pas 20 ans, mais au moins quelques années. Et des fois, tu oublies complètement que tu as créé ce contenu et ça continue à t'apporter des choses, des opportunités régulièrement. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, d'avoir partagé tout ça avec nous, pour ta générosité. Donc, pour ceux qui veulent avoir ton blog, c'est réussir-mon-e-commerce.fr. On met aussi le lien dans la description et puis il s'affiche là dans la vidéo. Donc là, tu donnes des conseils sur ce blog pour réussir son site e-commerce, voilà, comme l'indique son titre, tout simplement. Et tu vends aussi, on a compris, des plugins PrestaShop. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller jeter un œil. Merci à toi et puis peut-être à l'année prochaine pour la suite de tes aventures.
Ouais, avec plaisir.
Ciao.
Merci, ciao.
Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D. TV. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.